Vous écoutez CLS FM, l'unique radio communautaire francophone de la Colombie-Britannique.
Bonjour, c'est Mireille. Le mercredi à 14h, je vous donne rendez-vous dans la vitrine. La vitrine, on dresse un portrait de la vie communautaire et culturelle de toute la province de la Colombie-Britannique en français. Si vous manquez notre rendez-vous, bien c'est facile, vous nous rejoignez le vendredi pour la rediffusion à midi ou le dimanche à 11h.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. En interview aujourd'hui, je reçois Madame Pauline Gobeil, présidente de la Société francophone de Victoria. Nous évoquerons notamment ensemble le dossier de la future maison de la francophonie de Victoria. Mais avant, on démarre tout de suite l'émission du 12 juillet avec les bulletins d'infos de Denis Lépine. On se retrouvera tout de suite après pour la suite des actualités, notamment sur la scène provinciale. Bonne émission et merci d'être à l'écoute. Le débrief est rendu possible grâce à la contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. La 37e Assemblée générale annuelle de l'Assemblée des Premières Nations est en cours. L'événement est organisé jusqu'à jeudi au Centre des congrès Banque Scotia à Niagara Falls, dans le sud ontarien. Les chefs et les délégués doivent discuter des principaux enjeux. Ils pourraient aussi définir une stratégie pour faire progresser les priorités des Premières Nations. Des séances de dialogue sont prévues afin d'examiner des résolutions et définir des mesures et des changements fondés sur les traités autochtones. 5 projets reliés à la génomique recevront des fonds fédéraux totalisant 5,3 millions de dollars via Génome Canada. Une autre enveloppe de 11 600 000 dollars sera investie dans le même dossier par des partenaires tels que les provinces et des organismes des secteurs publics et privés. Les projets seront menés aux universités de Montréal, Toronto, Calgary et Victoria. Ils aborderont entre autres l'élimination des risques de l'exploration pétrolière et le taux de biodégradation et le nettoyage moins coûteux des sites industriels contaminés. De passage en Alberta, la ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, Bardis Jagger, a parlé de l'importance des petites entreprises et du tourisme en tant que moteur clé de l'économie canadienne. Elle a déclaré que le tourisme est un puissant moteur de croissance et a un effet dynamisant sur les PME. Elle a également rappelé que le gouvernement du Canada demeure déterminé à aider les entrepreneurs pour qu'ils deviennent plus productifs, innovateurs et axés sur l'exportation. Rappelons que les PME emploient 90 % de la main-d'œuvre du secteur privé canadien. Alors que le Canada signe un accord de libre-échange avec l'Ukraine, le premier ministre Trudeau lui poursuit et conclut aujourd'hui sa visite de 2 jours en Europe de l'Est. Flanqué du président ukrainien Porochenko, Justin Trudeau a dit lors d'une conférence de presse à Kiev que le Canada appuie toujours l'Ukraine dans le conflit avec la Russie. Cependant, il a refusé de confirmer si les troupes canadiennes poursuivront la formation des soldats ukrainiens au-delà de mars 2017. 200 instructeurs canadiens sont présentement dans l'ancienne République soviétique. La Grande-Bretagne tournera une nouvelle page de sa longue histoire avec l'arrivée de Theresa May dans le fauteuil de première ministre demain. Le tout fait suite à la décision d'Andrea Leadsom de se retirer de la course. Elle deviendra ainsi la 2e femme après Margaret Thatcher à occuper pareil poste. Elle a promis devant les médias de négocier le meilleur accord post-référendaire avec l'Union européenne. Margaret Thatcher a été première ministre de 1979 à 1990. C'est la semaine prochaine qu'aura lieu la Semaine nationale de la prévention de la noyade, soit du 17 au 23 juillet. Les instituts de recherche en santé du Canada rappellent que chaque année, environ 525 Canadiennes et Canadiens se noient. À l'occasion de l'événement, la docteure Alison McPherson, chercheuse financée par les instituts, discutera de ses travaux sur la prévention des blessures et de la noyade. Patrimoine canadien, en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada, a dévoilé l'exposition de photos 2016 présentée sur le pont Plaza intitulée « Solidarité féminine, la lutte sur les droits des femmes au Canada ». L'exposition célèbre le 100e anniversaire du premier droit de vote des femmes au Canada. L'exposition de 2016 est présentée jusqu'à la mi-octobre. L'entreprise Baskin-Robbins vient de dévoiler les résultats d'un sondage pan-canadien effectué par Léger Marketing sur les goûts des Canadiens concernant la crème glacée. On y apprend que la crème glacée au chocolat est la préférée des gens, et ce, dans 31% des cas, et 21% des personnes sondées ont dit aimer davantage la vanille. Également, 65% des personnes préfèrent une crème glacée dans un cornet, alors que 47% la préfèrent dans un bol. Au sport au baseball majeur, Giancarlo Stanton des Marlins de la Floride a remporté le concours de circuit hier soir. Le joueur vedette des Marlins a claqué au total 61 longues balles. On rappelle également que le match des étoiles aura lieu ce soir. Basketball maintenant, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA a annoncé sa retraite. Après 19 saisons, Tim Duncan a confirmé qu'il se retire. Duncan aura aidé les Spurs de San Antonio à remporter 5 championnats. L'agent libre Jarrett Soledger, lui, a accepté les termes d'un contrat d'une saison avec les Raptors. Il a d'ailleurs confirmé la signature sur son compte Twitter. La valeur de l'entente est de 6 millions de dollars. Et Tour de France, après une journée de repos, hier, les cyclistes reprennent la route aujourd'hui. 10e étape entre Escaldes et Revel, une étape de 197 kilomètres.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9. L'information se poursuit dans l'émission Le Débrief. On va passer à présent aux nouvelles provinciales. On commence par une nouvelle sur les ressources naturelles en Colombie-Britannique. Coup dur pour la première ministre Christy Clark et son gouvernement. On a appris hier lundi qu'un projet de gaz naturel liquéfié soutenu par la multinationale Shell Oil avait été remis à une date ultérieure. Le projet de 50 milliards est sur la glace en raison de la baisse de la demande en Asie et conséquemment de la baisse des prix, laquelle est corrélée à la chute des prix du pétrole. Dans ces circonstances, les profits espérés par les compagnies souhaitant lancer des projets de gaz naturel liquéfié en Colombie-Britannique et ailleurs sont beaucoup moindres par rapport à ce qu'ils pouvaient être il y a un an ou deux. Rappelons qu'en 2013, Christy Clark avait promis des revenus gaziers de 100 milliards de dollars et 100 000 emplois pour la Colombie-Britannique dans le cadre de ses grands projets de gaz naturel liquéfié connus du côté anglophone sous leur acronyme LNG. Alors le consortium LNG Canada formé de Shell, Coriaga, Mitsubishi et PetroChina devait rendre sa décision définitive d'investir dans l'énorme projet dans le nord de la Colombie-Britannique en février dernier. La décision avait été ensuite repoussée de plusieurs mois. Donc, c'est en suspens. Le projet n'est pas annulé en tant que tel, mais il est remisé indéfiniment. Alors, si ce projet se réalise, s'il va de l'avant en définitive, il permettra à la Colombie-Britannique d'exporter 24 millions de tonnes de gaz naturel liquide par an. Les coûts de construction de cette infrastructure atteindraient 50 milliards de dollars. Dossier de l'immobilier à Vancouver, un article paru dans le média indépendant de Taï, se fondant sur des statistiques rendues publiques récemment par le gouvernement de Colombie-Britannique, montre que les investisseurs chinois et étrangers qui investissent dans l'immobilier vancouverois dépensent des sommes équivalentes à la valeur totale des nouvelles maisons construites dans la même région. Donc tout ce qui s'achète finalement compense ce qui se construit. Dès lors, la demande est toujours aussi forte et les prix continuent d'augmenter. Le média de Taï souligne qu'un effet d'annulation se produit. Donc chaque mois, les achats de l'étranger, donc ce sont des achats chinois pour la plupart, rendent impossible l'effet d'équilibrage des prix qu'apporterait la construction de nouvelles maisons. Le média indépendant de Taï rappelle que les prix de l'immobilier sont en hausse de 32% par rapport à la même période l'année dernière et mentionne également que le taux d'inoccupation des logements dans la région de Vancouver est sous la barre de 1% actuellement, ce qui pénalise grandement les jeunes générations, les personnes âgées, les chômeurs et les personnes qui ont des emplois précaires et même certaines personnes de la classe moyenne. Donc, un dossier qui continue d'occuper l'avant-plan de l'actualité, la crise immobilière à Vancouver et aussi par extension à Victoria, dans les villes de Colombie-Britannique. Excellente nouvelle par ailleurs pour les défenseurs de l'environnement et les militants de la santé publique du côté de Vancouver. Le conseil municipal de la ville de Vancouver a voté en faveur de l'interdiction des néonicotinoïdes, ce qui comprend l'imidaclopride, un insecticide qui s'attaque aux asticots. Donc les néonicotinoïdes sont très controversés. Ils avaient été interdits en Europe, puis l'interdiction a été levée. Il y a un moratoire qui avait été mis en place, mais ils sont encore en vente libre, je crois, du côté de l'Europe, mais il y a une aura de controverse autour de ces produits chimiques. Alors, du côté de Vancouver, c'est une mesure, comme je le disais, qui est applaudie par les environnementalistes et tous ceux finalement qui se soucient de la santé publique. Le règlement municipal de la ville de Vancouver autorisait jusqu'à aujourd'hui l'usage de ces produits chimiques, donc les néonicotinoïdes, dans les cas d'infestation. Et cela en dépit des avertissements de plusieurs scientifiques et environnementalistes. Alors voilà, l'interdiction, elle est en place dans quelques jours, le nouveau règlement interdisant l'usage des néonicotinoïdes entrera en vigueur à la fin du mois. Donc, c'est une bonne nouvelle. On signale en outre, en terminant ce segment sur les nouvelles provinciales, un premier cas d'intoxication aux huîtres crues en Colombie-Britannique en 2016. Le premier cas de maladie associée à la consommation d'huîtres crues contaminées par la bactérie Vibrio parahemolytica a été rapporté en Colombie-Britannique. Le Centre provincial de contrôle des maladies infectieuses, le BCCDC, qui est dirigé par le docteur Brian Conway, qui est un invité fréquent de la station, particulièrement dans l'émission Sport et Santé Magazine. Alors, le Centre des maladies infectieuses, oui, a indiqué que la maladie avait été signalée le 30 juin dans la région de Vancouver. Cette bactérie Vibrio est d'origine naturelle et peut être présente en grande quantité dans les eaux côtières pendant les périodes où la température de l'eau est plus élevée. Elle peut causer des symptômes tels que les crampes, diarrhée, vomissements, fièvre, des symptômes qui peuvent durer jusqu'à une semaine. Donc, pour le moment, cette saison-ci, il y a seulement un cas de signalé. Il y avait eu une flambée l'année dernière de cette maladie provoquée par la bactérie et c'était la plus importante poussée répertoriée dans l'histoire du pays. L'autorité sanitaire de la Colombie-Britannique avait recensé donc l'année dernière au moins 73 cas d'intoxication bactérienne au cours de la période essentiellement estivale. En août dernier, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a annoncé le rappel des huîtres récoltées dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique en raison d'une possible contamination par la bactérie Vibrio parahemolyticus. Donc, ça semble moins grave cette année. J'imagine que les autorités sanitaires sont très, très vigilantes actuellement. Il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de flambée cette année, du moins jusqu'à maintenant, et on peut s'en réjouir. On va jeter un petit coup d'œil à la météo. On a du soleil aujourd'hui à Victoria. La journée est assez chaude. Actuellement, on a 19 degrés sur Victoria à l'aéroport. Au centre-ville, c'est un petit peu plus chaud. Ça dépasse légèrement les 20 degrés. En soirée, ça sera un mélange. On nous prédit une probabilité d'averse de 30 %. Donc, il y aura des nuages et une possibilité d'averse assez mince en soirée dans les prochaines heures. Autrement, pour demain, 13 juillet, on aura 22 degrés au mercure avec un ciel essentiellement dégagé, quelques nuages, mais le soleil dominera largement. Pour jeudi, un petit peu plus loin dans le temps, 14 juillet, fête nationale de la France, on mentionnera d'ailleurs une activité organisée par l'Alliance française dans l'agenda culturel un petit peu plus tard dans l'émission. Donc pour ce 14 juillet, après-demain, on aura 21 degrés avec le soleil. Aucun nuage nous prédit Environnement Canada sur le site météo.gc.ca. Donc, on s'arrête quelques instants. On écoute le collectif Basma Boom Sound System avec une pièce qui s'intitule « De l'eau ».
Chose qui vient spécialement dédicacée à tous ceux qui se bougent pour sauver la planète. Pardon, pour sauver l'homme.
Il me faut de l'eau pour mon pastaga, de l'eau pour mon poisson et mon chat, de l'eau pour arroser ma ganja, de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Je vois passer devant chez moi dans le ruisseau des mètres cubes d'eau, de l'eau potable qui s'en va dans les égouts, dont les trois quarts au moins ne servent à rien du tout. Pourtant on nous dit que ça coûte des sous. Il y a de quoi se demander si on n'est pas devenu fou. Je vois d'ici qu'on va encore me traiter d'écolo. Mais avant ça cousin, je viens t'expliquer le topo. Il me faut de l'eau pour mon pastaga, de l'eau pour mon poisson et mon chat. Je t'ai dit de l'eau pour arroser ma ganja, de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas facile de parler d'un tel sujet. A priori, il s'agit de banalité. Mais quand soudain j'ai réalisé le danger, je me suis aperçu que ça le méritait. À cause de l'eau, on voit partout, et oui, sur la terre, se déclarer des conflits, se déclencher des guerres. Pour quelques sources ou bien pour un bout de rivière. Et pour des peuples entiers, la vie devient un double enfer. Ma revendication est simple, elle est très claire. Alors encore une fois, cousin, je la réitère. Il me faut de l'eau. De l'eau pour mon poisson et mon chat. De l'eau.
Straight for them can't take a hint. Pass me my water straight, cold we go drink. And must be fi meditate and we go think. Come and see over deep sea, we get them a sink. Yo, ya put me up in on the ocean and some islands. And I always from my precious like some diamonds. So me sister now the fruits them and get ripe and them can't feed me life without no right hand.
Il faut prendre au sérieux les scientifiques quand ils nous disent que la situation est critique. Depuis plus de 100 ans, les progrès technologiques ont permis de réaliser des choses magnifiques. Mais dans le même temps, pour gagner toujours plus de fric, on fait n'importe quoi, le bilan est catastrophique. On installe n'importe où des usines chimiques, on pollue à tour de bras les nappes phréatiques. Je t'épargne les détails, tu connais la musique. Je me contente de t'expliquer la problématique. Je me contente de rappeler que l'eau est un trésor unique. Il faut le protéger et de nouveau je revendique. Il me faut de l'eau pour mon pastaga.
What a mius.
De l'eau pour arroser ma ganja.
What a mius.
Après leur vert, leur noir, leur blanc, on nous parle de l'or bleu. Certains d'entre nous en ont trop et certains autres en ont trop peu. Cela fait trop de mécontents, cela fait trop de malheureux. Si ça dure encore longtemps, l'avenir sera désastreux. L'eau de tous les éléments est celui qui me plaît le mieux. J'aime me prélasser dedans, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Il me faut de l'eau pour mon pastaga.
What a mius.
Je t'ai dit de l'eau.
Basma Boom Sound System avec la pièce De l'eau dans le débrief. Il est 16h19. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. On va passer à la nouvelle du jour. Celle-là, on n'a pas eu de difficulté à la sélectionner. Vous allez comprendre tout de suite. Bernie Sanders se rallie à Hillary Clinton. Donc, le sénateur du Vermont s'est rallié à Hillary Clinton dans la course à la présidentielle et à quelques jours de la convention démocrate de juillet en vue de l'élection présidentielle de l'automne. Donc, je vous lis quelques passages d'une dépêche Reuters qui résume la situation. Bernie Sanders s'est rallié mardi aujourd'hui à Hillary Clinton dans une démonstration tardive d'unité en jugeant crucial pour les démocrates américains de se rassembler pour vaincre Donald Trump lors de l'élection présidentielle du 8 novembre. Bernie Sanders s'est rallié à Hillary Clinton, donc ça n'est pas une surprise pour nombre d'observateurs aguerris. Pour la base qui soutenait Sanders, par contre, il y a plusieurs supporters, plusieurs adeptes du sénateur qui sont très déçus. Elle sera la candidate démocrate pour la présidence et j'ai l'intention de faire tout mon possible pour garantir qu'elle soit la prochaine présidente des États-Unis, a déclaré le sénateur lors d'un meeting à Portsmouth dans le New Hampshire sous les vivas du public en grande partie composée de ses partisans. Le ralliement de Bernie Sanders intervient 5 semaines après que Hillary Clinton ait obtenu le nombre de délégués suffisant pour être investie candidate à la présidentielle par le Parti démocrate au terme d'une âpre bataille. Oui, le nombre suffisant, cet article de retard va un petit peu vite en affaires puisque c'était sur papier. Hein, le nombre suffisant ne pouvait être obtenu que lors de la convention parce que il y a différentes catégories de votants dans les primaires. Il y a les super délégués et les super délégués n'avaient toujours pas voté à cette période. Bon, c'est peut-être un détail. Donc, revenons à l'article. Hillary Clinton espère que ce ralliement, moins de 2 semaines avant l'ouverture de la convention de Philadelphie, 25 au 28 juillet, lui permettra de gagner des voix au sein de l'aile gauche du parti que représente Bernie Sanders. Je ne peux m'empêcher de penser que cette élection sera bien plus plaisante maintenant que nous sommes du même côté, a déclaré Hillary Clinton. Merci Bernie pour votre soutien, mais plus que tout, merci pour votre combat de toute une vie contre l'injustice. Ce sont des mots qu'elle a écrits sur Twitter également. Il y a quelques heures, l'ex-secrétaire d'État est donc bien en selle à quelques jours de la convention de Philadelphie. Dans un récent sondage Reuters Ipsos, seuls 40% des soutiens du sénateur du Vermont annonçaient qu'il se rallierait à Clinton. Donc Clinton a encore un travail de séduction à faire car son programme était très différent de celui de Sanders. Clinton était de droite et sa politique étrangère, même sous certains angles, est plus à droite que l'était celle de George Bush il y a 15 ans. Donc, sur le plan social aussi, sur le plan intérieur, il y avait de grandes différences. Bernie Sanders a milité en faveur de mesures sociales comme les frais de scolarité, la baisse des frais de scolarité, même la gratuité scolaire à l'université, une aide sociale plus forte, plus présente, des mesures sociales aussi qui concernent la santé, bien sûr, l'accès aux soins de santé, un salaire minimum majoré, et il a rallié beaucoup de la jeunesse du Parti démocrate et ses meetings politiques étaient toujours pleins à craquer. Donc il a fait pression sur Hillary Clinton et celle-ci a dû s'ajuster un petit peu au cours des derniers mois et ajouter quelques petites mesures de gauche dans son programme. On va voir si ça va demeurer et si elle tiendra parole. Là-dessus, on peut douter fortement qu'elle suive le programme de Bernie Sanders, même dans une version diluée. Ce serait très étonnant. Et c'est justement ce que craignent plusieurs supporters de Sanders qui ont beaucoup de doutes à l'égard de Clinton, qui ne croit pas à son authenticité, qui ne croit pas à ses déclarations, et qui justement certains d'entre eux sont même prêts à voter pour Donald Trump par dépit et par déception, histoire de jeter un peu de répondre justement à l'establishment qui semble avoir écrit le scénario de cette élection de 2016. Donc pour jeter un petit peu d'imprévu, oui, dans cette élection. Alors on va voir si la base de Sanders se rallie derrière Clinton. On peut en douter, ça n'est pas confirmé. Alors c'est la nouvelle du jour, le ralliement de Bernie Sanders à Hillary Clinton. Maintenant, on va voir ce qui se passe lors de la convention démocrate de Philadelphie. Il faudra surveiller les discours, les engagements et l'enthousiasme que manifestera Bernie Sanders lors de ce grand rassemblement démocrate que Hillary Clinton espère fédérateur et rassembleur. Voilà, donc on va retourner en musique quelques minutes. On va écouter Peter avec la pièce Noir Eden. On se retrouve dans quelques minutes pour regarder ensemble l'agenda culturel. À tout de suite.
Je réfléchis, j'invoque l'esprit, celui qui depuis lors me possède. Désormais fantôme, il ne m'écoute plus, je le comprends, je m'écoute trop et ça ne mène jamais ailleurs. Trois heures à M, seul avec moi, dans un diner, ouvert 24 heures, où les gens prennent pour emporter. La soupe est chaude, les toilettes propres, la dame est gentille, et quand elle part, défile les sous-titres comme au cinéma. C'est un film noir, oui, j'en suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde, connaît la fin. J'ai des questions, des milliers de questions, une de plus à chaque seconde. De mon téléphone, soudain quelque autre, j'ai cru c'était toi, c'était personne. Une meute de loups entre et dévore tout, je crois qu'ils sont ivres, ils ont l'air heureux, ça me le rend un peu, je les espionne. J'ai le souvenir d'avoir fait bien pire il y a quelques années, je m'en suis sorti. Serais-je jamais rentré? J'écris mes aveux dans le bloc-notes de mon téléphone. Soudain quelqu'un entre, j'ai cru c'était toi, cette personne. C'est un film noir, oui, je pense. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des milliers. Une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui, je suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des milliers de questions. Une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, c'est un film noir, c'est un film noir.
Peter, dans le débrief, il est 16h29, on va ouvrir les pages de l'agenda culturel. On a, pour commencer, un classique à Ciné Santa ce soir, Les 400 coups de François Truffaut. Alors, c'est en français, profitons-en, un film français en projection au cinéma Ciné Santa, le cinéma d'art et d'essai du campus de l'Université de Victoria. En anglais, The 400 Blows, c'est un classique de 1959. Oui, donc c'est le film qui ouvre la nouvelle vague française avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard à peu près à la même période. C'est un long métrage de 99 minutes qui donne la vedette au jeune Jean-Pierre Léo qui dans ce film a environ 12-13 ans. Donc c'est une histoire, c'est un coming of age movie, oui, l'un des meilleurs de l'histoire du cinéma, très bien filmé, très bien raconté, poignant, d'authenticité. Donc c'est l'adolescence troublée d'un jeune fugueur, Antoine Doinel, qui est un personnage qui va revenir plus tard dans l'œuvre de Truffaut. Donc c'est dans les films les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle dans le cinéma français. Film qui inaugure la nouvelle vague, oui. Donc c'est ce soir à Ciné Santa à 19h et 21h, Les 400 coups de François Truffaut. Si vous avez des amis anglophones, emmenez-les avec vous parce qu'il y a des sous-titres, bien sûr. Le film en langue française est sous-titré. Alors, vous pouvez amener de la compagnie avec vous, francophone, francophile et anglophone. Donc, voilà pour Ciné Santa. Autrement, toujours sur le campus de l'Université de Victoria, mais vendredi, donc vendredi 15 juillet, il y a un documentaire sur les pratiques des compagnies minières canadiennes sur la scène internationale, pratiques qui ne sont pas toujours moralement reluisantes, on va dire, qui ne sont pas toujours éthiques. Donc c'est un documentaire intitulé Flin Flon, Flin Flam. Phonétiquement très intéressant, Flin Flon, Flin Flam, un documentaire de long métrage qui sera projeté le 15 juillet à 19h au Vic Theatre. Et le Vic Theatre, c'est au 808 Douglas Street. En fait, je me suis peut-être avancé un petit peu trop en disant que c'était sur le campus de l'Université de Victoria. Pas tout à fait. Donc, c'est au Vic Theatre, au 808 Douglas, à Victoria, bien sûr. Donc, le 15 juillet à 19h, ce documentaire sur les activités des compagnies minières canadiennes et en particulier d'une compagnie qui s'appelle Hudbay Minerals. C'est un film qui a gagné des prix. Le réalisateur sera présent et pourra répondre aux questions de l'assistance après la projection. Autrement, je vous signale bien sûr le 14 juillet qui est célébré par l'Alliance française encore cette année dans une nouvelle salle. Cette année, ils sont au Parkside au 810 Humboldt à Victoria. C'est un 5 à 7. Madame Claire Carlin nous a accordé une entrevue il y a quelques jours à propos de cette soirée du 14 juillet qui promet d'être fort intéressante. Donc, si vous voulez justement vous joindre à la fête, tout le monde est invité. L'affiche de l'événement le souligne. All welcome, avec un point d'exclamation. Ça veut dire que si vous êtes Canadien, de toute origine que ce soit, vous êtes bienvenu à cette fête du Bastille Day au Humboldt, au 810 Humboldt. C'est au dans l'hôtel Parkside et ce sera en hauteur. Une salle, nous a dit Claire Carlin, qui offre une très belle vue des environs. Donc, avec la belle météo qu'on a annonce pour le 14 juillet à Victoria, ça promet d'être un succès. Si vous voulez avoir de plus amples informations, vous vous rendez bien sûr à l'adresse afvictoria.ca. C'est l'adresse de l'Alliance française de Victoria. Voilà qui conclut les quelques petites options culturelles dans le débrief. On va retourner en musique quelques instants. On écoute Philémon Simon avec la pièce « Je t'ai, je sais, je t'ai, je t'ai, un sort ». Au retour, ce sera la revue de presse.
Tu prends ta douche, je joue de la guitare. Ah, 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 ah. Ta porte touche, tu sais qu'on s'aime.
Simon, dans le débrief, 16h37, on va passer à la revue de presse des éditoriaux. On a plusieurs textes à signaler. On commence par un papier paru dans le journal Le Devoir, sous la plume de Brian Miles, qui signale qu'enfin, la Cour suprême agit pour faire cesser les délais judiciaires qui sont devenus vraiment épidémiques dans notre système de justice au Canada, dans toutes les provinces. Il écrit « La Cour suprême du Canada a signé l'arrêt de mort des procès interminables vendredi dernier. La justice criminelle ne sera plus jamais la même. » Donc c'est une bonne nouvelle, écrit-il. « L'encre n'était pas encore sèche sur l'arrêt Jordan. » C'est comme ça qu'il s'appelle. On va voir pourquoi un petit peu plus loin. « Que la nouvelle jurisprudence trouvait une première application au Québec. Jerry Purdy, reconnu coupable de complot en vue de recycler des produits de la criminalité, s'en est tiré avec une probation de 2 ans. La même journée que l'arrêt a été rendu donc par la Cour suprême du Canada. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Un procès qui traînait en longueur a été écourté. Donc, la personne qui était accusée a écopé d'une probation plutôt que d'une peine. Je poursuis dans l'article de Brian Miles. En matinée, la Cour suprême, ce jour-là, vendredi dernier, avait adopté un nouveau cadre dans la cause du Britanno-Colombien Barrett Richard Jordan, donc d'où le nom de l'arrêt, l'arrêt Jordan, pour déterminer si un procès criminel est miné par les délais, des délais déraisonnables. Alors, pour info, à titre informatif, on se rappellera que Jordan avait été arrêté en décembre 2008 et n'avait été condamné qu'en février 2013, soit 49 mois plus tard. Donc, c'est ce genre de délai que la Cour suprême a voulu éliminer dans son arrêt de vendredi dernier. Et Brian Miles félicite la Cour, justement, pour avoir enfin agi dans ce dossier. C'est un arrêt, bien sûr, qui va faire jurisprudence. L'étirement des procès, oui, au pays était devenu très, très préoccupant, très inquiétant. Espérons que cette décision de la Cour va permettre de renverser la tendance. Autrement, je tiens à vous signaler un texte amusant, mais aussi très informatif, paru sur le blog du média indépendant Mediapart.fr. C'est signé par le blogueur Pierre Guérini et ça concerne la consommation de viande. On sait que la consommation de viande, surtout par les Occidentaux, cause des dommages à l'environnement et contribue largement, contribue énormément au changement climatique. Donc, le blogueur Pierre Guérini, sur le site de Mediapart, écrit « Une baisse draconienne de la consommation de produits d'origine animale est nécessaire pour sauver le monde des pires impacts du changement climatique », rapporte l'Organisation mondiale, l'Organisation des Nations Unies, oui. Selon l'ONU, l'agriculture induit et entraîne une forte hausse de la consommation des combustibles fossiles. Selon l'ONU, l'agriculture induit donc une forte hausse des consommations des combustion fossile. Excusez-moi, je viens de relire la même phrase. Voilà. Un changement global de l'alimentation mondiale vers un régime végétalien est absolument vital pour sauver le monde de la faim, de la carence de carburant et la soustraire aux pires impacts du changement climatique, selon un rapport récent de l'ONU, signale Pierre Guérini. Donc, je vous relis ce passage qui est vraiment crucial. Un changement global de l'alimentation mondiale vers un régime végétalien est absolument vital pour sauver le monde de la faim, de la carence de carburant et la soustraire aux pires impacts du changement climatique. Donc, dans ce blog de Pierre Guérini, on a un lien vers le rapport qu'il cite, qui est un lien donc vers le rapport PDF hébergé par le portail de l'Organisation des Nations Unies. Alors, les lecteurs les plus intéressés pourront lire le blog et aller consulter le rapport. Donc, c'est sur Mediapart.fr sous la plume de Pierre Guérini. Autrement, bien sûr, j'ai encore quelques minutes pour vous signaler cet article paru sur le portail bastamag.net, qui est un autre média indépendant d'affiliation assez, disons, située à gauche sur le spectrum. Bastamag, dans cet article, s'intéresse au cas des accaparements de terres. L'auteur Sophie Chappelle écrit que 30 millions d'hectares sont concernés par l'accaparement de terres. Souvent, ces accaparements sont faits par de grandes compagnies, de grands distributeurs ou de grands négociants qui s'accaparent des millions d'hectares, oui, pour faire une agriculture industrielle qui souvent bouleverse des populations entières. Donc, cet article est basé sur un rapport d'une ONG qui s'appelle Grain, G-R-A-I-N ou Grain. Elle est basée à Barcelone et cette association Grain, oui, a recensé près de 500 cas d'accaparement de terres dans le monde, dans 78 pays. Et comme on le disait, 30 millions d'hectares sont concernés. C'est très instructif. L'article indique que l'Afrique, l'Europe de l'Est et le Pacifique demeurent les régions les plus convoitées et les plus susceptibles de faire l'objet de tels accaparements de terres. Mais on trouve également des cas ailleurs dans le monde et il y a différents exemples qui sont cités dans l'article. Il y a notamment des méga transactions foncières. On cite le cas au Mozambique, oui, en Afrique. Le cas du projet de Daewoo, qui est une multinationale coréenne, on le sait, sur 1,3 million d'hectares à Madagascar. C'est un projet qui n'a pas vu le jour car l'opposition populaire était trop forte l'opposition populaire a réussi à renverser le gouvernement et à annuler l'exécution de ce projet qui s'étalait sur 1,3 million d'hectares. Donc, le géant coréen Daewoo voulait s'accaparer cette énorme portion du territoire de Madagascar. Et on cite également le groupe indien Siva qui avait accumulé un portefeuille de près d'un million d'hectares de terres agricoles pour des plantations de palmiers à huile. Il a dû renoncer à son projet également aux Seychelles. On a aussi un projet au Cameroun qui, après de nombreuses protestations, a été annulé. Donc plusieurs de ces projets géants ont été annulés après la crise financière de 2008, le sujet demeure d'actualité. Il y a encore de nombreux cas d'accaparement de terres partout dans le monde, et cet article paru sur Bastamag vous aidera à saisir les rudiments de ce dossier et à consulter les sources, car l'article vous dirige vers différents documents plus étayés. J'aurais également voulu vous signaler le mea culpa d'un ex-ministre de Tony Blair. Donc c'est un homme politique, Dennis McShane, qui était le numéro 2 du gouvernement de Tony Blair au début des années 2000, lorsque Tony Blair a décidé d'engager son pays dans la guerre en Irak. C'est donc un mea culpa de Dennis McShane qui a paru dans la presse britannique, mais dont s'est emparé le site Libération.fr, le journal Libération. Ils en ont fait la traduction et c'est assez bien écrit. C'est un mea culpa sincère, assez bien tourné, qui arrive justement quelques jours à peine après la publication du rapport de Sir John Chilcot, qui avait été mandaté pour rendre un rapport sur la guerre en Irak. Et c'est ce rapport, donc le rapport qu'on appelle le rapport Chilcot, était très sévère à l'endroit de Tony Blair, notamment pour ses manipulations politiques et son impréparation lors de la guerre en Irak de 2003 et dans les années suivantes. Donc voilà, on va courir vers l'interview du jour. Je vous le disais en début d'émission, on interview aujourd'hui Madame Pauline Gobeil, qui est présidente de la Société francophone de Victoria. On évoquera notamment la question de la future maison de la francophonie à Victoria. Madame Gobeil est passée à nos studios un petit peu plus tôt aujourd'hui. On écoute ça dans quelques instants. De retour dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. Merci d'être à l'écoute. Je suis en compagnie aujourd'hui pour cette portion d'interview dans l'émission de Pauline Gobeil. Bonjour Madame Gobeil.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la Société francophone de Victoria. On est ensemble pour parler du mandat et des récentes activités, récentes décisions prises par la société. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit portrait dans un premier temps de votre parcours? Est-ce que vous êtes à Victoria depuis longtemps? Est-ce que vous êtes présidente de la société depuis longtemps? Un petit...
Oh mon Dieu! Une histoire qui a commencé en 85. Je suis déménagée du Québec, du Lac-Saint-Jean, pour m'en venir à Victoria. Ben, en premier, je suis allée à Regina. J'ai trouvé Marie. Et puis, on a continué vers l'ouest pour aboutir à Victoria. mais j'ai eu deux garçons. Puis à ce moment-là, en 91, avec le premier-né, on a décidé qu'il fallait que je m'occupe du français pour m'assurer qu'eux parleraient le français, qu'ils aimeraient la francophonie. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer.
Ils ont donc grandi à Victoria.
Oui, ils sont nés à Victoria, sont allés à l'école de la maternelle à la 12e année, à l'école Victor Brodeur. Puis, ils parlent encore français, puis ils sont impliqués aussi.
D'accord, formidable. Et qu'est-ce qui vous a rapproché de la société francophone? Vers quelle époque vous êtes-vous jointe à cette organisation?
Ben, je me suis impliquée avec les enfants. Bon, ça a commencé avec la garderie. Ça fait que les 20 premières années, ça a été surtout avec l'éducation. Puis, à un moment donné, quand ils ont terminé leur scolarité, là, tu n'es plus un parent du conseil scolaire. Tu es membre du conseil scolaire, mais tu ne peux pas vraiment t'impliquer activement à l'intérieur de l'école. Là, j'ai regardé autour, puis j'ai décidé que les gens parlaient, discutaient de la société, puis j'ai dit « Oh, ça serait intéressant de continuer avec la communauté ».
D'accord. Donc, et tranquillement, vous vous êtes rapproché du CA, de la société, et vous en êtes la présidente depuis quand, en fait?
Ça fait 2 ans. D'accord. Le 16 de juin dernier, j'ai été réélue pour un autre 2 ans.
Et quels ont été les dossiers prioritaires au cours de cette période de 2 ans pour vous?
Ben, la première année, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements. Je veux dire, le CA était nouveau. Moi, j'étais nouvelle. Puis en plus, on a eu une nouvelle direction générale. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de travail. Juste d'apprendre comment fonctionne le système de subvention, de financement. Puis après ça, répondre aux besoins de la communauté. Ça, c'est... faut que tu l'apprennes aussi. Même si tu vis là-dedans tout le temps, c'est pas évident.
Quels sont-ils ces besoins en 2016?
En 2016... Ça dépend à qui tu parles.
Oui,
ça dépend quel âge. Ça dépend quel âge tu as.
Oui.
Ça dépend de plusieurs choses, en fait. Mais la chose principale, c'est qu'il faut... puis, on a eu une rencontre en 2014. À la fin de 2014, de la communauté, il y avait une centaine de personnes. Puis, qu'est-ce qui est revenu comme point numéro un? C'était qu'il fallait avoir pignon sur rue.
Ah! Donc, ça, une ça maison fait des... de la francophonie.
Oui, ici ça à fait Victoria. des années que c'est dans le cœur des gens, c'est dans la pensée, mais ça n'a pas encore été mis en réalité.
En chantier.
Oui, en chantier.
Et donc, Vancouver a une telle maison de la francophonie. Mm-hmm. Est-ce qu'on les imiterait? On imiterait leur exemple? Est-ce que ce serait identique?
Tout est sur la table.
D'accord.
Parce que là, on a fait un premier pas. Première des choses, la planification stratégique pour jusqu'à 2016-2019 a été votée lors de l'AGA. Puis le premier point qu'on a dit qu'on ferait dans ces 4 années-là, c'est qu'on aurait pignon sur rue. Un centre communautaire, une maison de la francophonie, on ne sait pas qu'est-ce que ça va avoir l'air, mais on part du fait qu'il nous faut pignon sur rue.
D'accord. Et donc, les prochaines étapes dans ce projet, est-ce que vous... Il y a des réunions qui vont jalonner le calendrier?
Oui. Il y a un comité qui a été mis sur pied, puis on a essayé de trouver des gens qui, avec différentes expertises, différents points de vue, pour mettre tout ce monde-là autour de la table pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait procéder dans un premier temps. Il ne faut pas oublier que toute décision finale va être prise par la communauté. Mm. Fait que ça, c'est... Nous autres, notre travail, c'est de trouver des solutions, des différentes options, puis à partir de ces options-là, de dire, OK, les risques attachés à une telle ou à ces options-là sont 1, 2, 3, 4... Les bonnes choses associées à ces décisions-là, c'est 1, 2, 3, 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est réaliste, ce rêve-là? Est-ce que c'est un rêve réalisable, autrement dit? Il va falloir de l'argent? Il va falloir des subventions?
Oui, il va falloir de l'argent.
Peut-être quelques philanthropes?
Absolument. Mais ça va faire partie de toutes ces discussions-là, puis de dire, OK, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui va répondre le mieux possible en ce moment? Parce que je ne vois pas nécessairement que ça peut... Ce n'est pas nécessaire d'avoir une immense gros building.
Un temple.
Un temple. On peut commencer tout petit, puis grandir doucement avec les besoins, puis s'adapter. Ce qui est important, c'est de définir c'est quoi la meilleure réponse possible en ce moment, puis d'y arriver. Mais je pense que c'est très, très faisable. Puis, moi, c'est l'objectif que je me suis donné.
Formidable. Et donc, à titre de référence, puisqu'on n'a pas encore de maquette ou de plan détaillé, à quoi ressemble, par exemple, la Maison de la francophonie de Vancouver, juste à titre de référence?
Bon, c'est différents modèles d'affaires. Hein? Puis on les a explorés un petit peu déjà. La Maison de la francophonie à Vancouver, ça s'appelle une société en commandite. Puis une société en commandite, c'est que toutes les associations provinciales qui sont logées dans la Maison de la francophonie, comme la Fédération des parents, le Conseil jeunesse, la Fédération des francophones, entre autres, la SDE, sont toutes ils possèdent une action de la compagnie.
D'accord.
Alors, c'est un bureau qui s'occupe de ça, la Maison de la francophonie en tant que telle, mais les locataires, mais aussi les propriétaires sont les associations. Ça fait que vous avez les compagnies en commandite, bon, il y a des coop que ça pourrait être, ça prend la forme d'une coop. Mm. Alors, avec la coop, est-ce que c'est les associations qui seraient membres ou est-ce que les individus pourraient être membres? Ça pourrait être une compagnie à action, tout simplement. Ça pourrait être une société quelconque.
Toujours à but non lucratif.
Toujours à but non lucratif.
Est-ce qu'il y a un modèle pour lequel vous avez une petite préférence à l'heure actuelle?
Non. On ne sait pas. Il n'y a pas encore de réponse claire. Dans le sens que pour que la société francophone, avec la façon de fonctionner maintenant, actuelle, avec le patrimoine canadien, par exemple, pour le financement de nos activités, le patrimoine canadien va accepter de payer un loyer, de nous donner de l'argent pour payer un loyer.
Ah oui, ça c'est déjà acquis.
Oui.
Bon.
Mais par contre, il ne donne pas de l'argent pour payer une hypothèque.
Ah oui.
Alors, il faut vérifier avec eux. Puis justement, mardi dernier, on a rencontré la ministre Joly avec la table ronde sur discussion pour la nouvelle feuille de route pour la francophonie et les langues officielles au Canada. Puis ça a été un des points qu'on a mis de l'avant, que vraiment pour assurer la vitalité des communautés francophones en milieu
minoritaire,
il faut absolument qu'on ait un point d'ancrage, une place où la francophonie est reine,
ou
la francophonie, c'est justement que ce soit anglophone, que ce soit des touristes, ils voient la place, puis c'est « Ah! »
C'est la Maison de la francophonie, ici à Victoria, qui est la capitale de la province, donc c'est important qu'il y ait une telle maison.
Ben, c'est ça.
Parfait. Et donc ça va vous occuper pas mal au cours des prochains mois et peut-être années.
Oui.
Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres dossiers dans l'agenda de la présidente de la Société francophone de Victoria?
Ben ça, c'est le principal, mais il y a aussi qu'il faut assurer, ben, il faut essayer de regarder ailleurs pour voir si on peut trouver du financement. Ça fait qu'il y a l'économie sociale qui est intéressante. L'économie sociale, c'est d'offrir des services autres que les activités. Puis, il y a toujours pourquoi on est là, c'est pour rassembler les francophones, promouvoir la francophonie, la langue française, notre culture, c'est important. Puis aussi, surtout, d'offrir les services que les gens veulent. Alors, c'est des activités, puis il faut toucher à tout, hein, les aînés, les enfants, la jeunesse, puis essayer de répondre à qu'est-ce qu'ils veulent du mieux qu'on peut. Alors, là, cette année, on s'est donné comme objectif d'essayer d'avoir un programme, une programmation pour l'année, et ce, disponible probablement en septembre, suite au début de septembre. Les gens vont être capables de regarder, de dire « Ah, je suis intéressé, il y aura des bonnes dégustations de vin, je m'inscris pour toute la série ou je m'inscris pour celle-là. »
Mais il y a déjà l'agenda, ça va être plus que l'agenda qui paraît sur le site francocentre.com. Ça va être plus détaillé, plus en profondeur.
Oui, puis après ça, on est en train aussi de travailler beaucoup en partenariat avec les autres organismes francophones, comme l'Alliance française, l'Association oui. historique francophone, la radio,
oui.
tout ça pour essayer d'utiliser les forces de chacun, puis de tout mettre ça ensemble, ça fait que ça va donner encore plus de... Bon, plus de choix, plus d'options, plus d'activités, puis après ça, plus de visibilité à la fin de compte.
Donc, ce programme-là dont vous parlez va paraître dans le réverbère, je crois?
Oui, dans le réverbère. Oui. Puis en septembre, on est supposé aussi, là, on est en train de travailler là-dessus, avec une bienfaiteur, je dirais,
oui, oui.
qui est la compagnie CGI. Ils sont en train de nous aider à développer un nouveau site web.
D'accord. Et ça,
avec
c'est...
une différente plateforme, puis qui va être beaucoup plus accessible, plus intéressant.
À puis titre c'est... gracieux.
Oui, à titre gracieux. Comme c'est un don qu'ils nous font, puis ils nous traitent comme une vraie compagnie, alors c'est wow. extraordinaire.
Ça a une grande valeur, ça.
C'est une très grande valeur.
Donc, compagnie montréalaise,
oui.
CGI,
mm-hmm.
qui, c'est à travers des contacts, j'imagine?
Oui, à travers okay. des contacts, puis on les a approchés, ils étaient très intéressés.
Mm-hmm.
Puis on a présenté notre plan, puis on dit « OK, on embarque ».
Et on va dévoiler ce nouveau portail à quel moment?
C'est supposé. Puis là, j'ai pas de date firme,
oui.
mais ferme, mais c'est en quelque temps, en mois de septembre.
OK, donc ça s'en vient très
oui.
rapidement.
Mm-hmm.
C'est en gestation actuellement.
C'est en développement.
OK, formidable. Pauline Gobeil, un grand merci d'être passée à la station. On partage les locaux, comme plusieurs membres de la francophonie le savent. Donc, on est au 535 rue Yates. Passez nous dire bonjour, francocentre.com, pour connaître les activités de la Société francophone de Victoria. Encore merci, Madame Gobeil.
Merci beaucoup.
À
Bye.
Bientôt. C'était Pauline Gobeil.